Moi, c'est André de Mbujima, locataire oriental. J'ai refusé totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre émission Parole aux auditeurs. Au lendemain de la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington, la cité de Luvungi, dans la plaine de la Ruzizi au sud Kivu, est vidée de sa population. Des sources locales concordantes estiment que depuis le matin du vendredi 5 décembre 2025, environ 80% des habitants se sont dirigés vers la localité de Sangé, puis la ville d'Uvira, plus au sud, avec l'intention de traverser vers le Burundi. Ils tentent de se mettre à l'abri des combats qui opposent depuis environ une semaine les rebelles de la CM23 appuyés par les Rwanda aux forces armées de la RDC et FARDC appuyées par les Wazalendo. Kamanyola et Katogota font l'objet d'intenses combats et la CM23 renforçant ses positions dans la partie nord tandis que les FARDC font de même dans la partie sud. Les belligérants cherchent à contrôler la zone. Cette situation d'insécurité qui intervient dans le contexte d'enterrement de cet accord de paix suscite des inquiétudes. Que pensez-vous de l'intensification des combats dans cette partie du pays? C'est autour de cette question que nous allons échanger pendant environ 55 minutes dans ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs de ces jours. Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Paroles aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pa@radiocapi.net pour réagir dans les groupes WhatsApp des Paroles aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant le 089 55 98 337, 089 55 98 337. Detse Vita est à la mise en onde de ce magazine. Jonathan Chimanga assure les lives de cette émission et grâce à Mbozolo en assure la réalisation et la coordination. À la présentation, Guy Maté.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs. Merci à tous ceux qui ont réagi sur la page Facebook et aussi qui se sont inscrits pour réagir. Nous parlons aujourd'hui de l'intensification de combats depuis une semaine dans la plaine de la Ruzizi du Sud Kivu entre les FARDC appuyés par les Wazalendo et la FCM23 appuyés par l'armée rwandaise dans un contexte d'enterrinement de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Et pour échanger sur ce sujet, nous recevons en ligne Justin Bitakwira, il est ministre honoraire, il est député national élu d'Uvira au sud Kivu. Il est également président du parti politique Alliance pour la République et la Conscience nationale ARCN en cible, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Bonjour Justin Bitakwira.
Bonjour Guy Maté.
Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. D'abord, quelle est la situation sécuritaire ce matin dans la plaine de la Ruzizi?
Les informations à ma possession, c'est tout à l'heure, et que la situation s'est beaucoup détériorée. Détériorée dans le sens que, jusqu'à hier, nos forces gardaient Katogota et Lubungu, mais apparemment depuis la nuit et ce matin, gracieusement, sans aucune réaction de nos forces, un char blindé et quelques militaires, M23, se seraient accaparés de Luvungi. Ils évoluent jusqu'à Bouguera. Et de Bouguera, à l'heure où je vous parle, c'est à Luberizi. Et aucune réaction, ni des FARDC, ni de nos partenaires burundais, et sans parler de Wazalendo.
Mais nous avons appris qu'il y a des combats, il y a des combats qui engagent, n'est-ce pas, les FARDC, et qui sont appuyés par, comme toujours d'habitude, par les Wazalendo et aussi l'armée burundaise.
Non, je dois être sincère avec vous. Apparemment, Kinshasa ne sait pas ce qui se passe. Et on est dans des conditions confuses. Où de notre côté, il y aurait cessé le feu. Mais du côté de l'ennemi, il progresse vers où, là?
Voilà, une situation confuse, comme vous le dites. Et, honorable Justin Mitapira, qu'est-ce qui peut expliquer l'intensification subite, n'est-ce pas, des combats entre les deux forces dans cette partie du pays? On a l'impression que l'ASCM-23, appuyé par l'armée rwandaise, était dans la léthargie, et puis subitement, ils se réveillent, ils se disent, nous devons cibler Uvira. Qu'est-ce qui explique l'intensification des combats, honorable?
Vous savez, là où nous sommes là, Uvira est un point plus stratégique que Goma et Bukavu. Et comme nous nous comptons sur Doha et Washington, l'M23 lui-même, appuyé par le même Rwanda, dit qu'il n'est pas concerné par les accords. Or, il n'y a pas de M23 dans le Rwanda. Le M23, c'est une coquille. C'est le Rwanda qui opère. Et c'est le Rwanda qui donne l'ordre. Maintenant, de notre côté, je pense que je ne me trompe pas, nous comptons plus sur l'accord et sur le cessez-le-feu, mais les amis ou les ennemis opère gracieusement.
Oui, mais comment vous expliquez le fait que, même si le M23 dit qu'il n'est pas concerné par ce qui s'est passé à Washington le jeudi dernier, donc l'entérinement de l'accord de paix entre les Rwanda et la RDC, mais le même M23 est en négociation avec le gouvernement congolais à Doha. Et au cours de ces négociations, il y a eu un certain nombre de textes qui ont été adoptés par les deux parties, notamment cet accord cadre. Et parmi les points, les 8 points, n'est-ce pas, contenus dans cet accord cadre, il y a ces points-là sur la surveillance du cessez-le-feu. Donc aussi, ils ont donné leur accord pour qu'il y ait un cessez-le-feu. En principe, ils ne devaient pas prendre l'initiative de lancer les offensives.
Du matin chez moi, il y a un proverbe qui dit que quand ta grand-mère tisse la corde pour t'attacher, tu dois aussi tisser une autre pour que tu l'attaches avant elle. Malheureusement, ce n'est pas cela auquel on assiste. Le gouvernement congolais, l'état-major général, et même avant l'état-major général, le ministère de la Défense doit avoir un rétroviseur pour savoir qu'est-ce que l'ennemi prépare. Mais si nous agissons comme des aveugles, on vous arrache des entités, une cité comme Lubumbu. C'est pas habité par moins de 500 000 personnes. Maintenant, ils ont dépassé Bouguera. Ils sont à l'Ubérige. La destination finale, c'est la ville d'Uvira.
Voilà, vous avez dit que Uvira est plus stratégique que Goma et Bukavu. C'est quoi l'importance de la ville d'Uvira, vous qui êtes un notable de là?
L'importance de la ville d'Uvira est que ça ouvre sur tout le Grand Katanga. Et il ne faut pas ignorer que dans les hauts plateaux d'Uvira, Mwenga et Uvira, il y a les Tugwaneho, il y a les Gumino, affiliés au M23 et au Rwanda, opèrent à leur tour. Donc, l'ennemi qui vient de Kamanyola avance par la plaine de la Rudibi, mais les Tuiguanéo et les restes descendent par les hauts plateaux et ils vont prendre Uvira en otage. Uvira pris l'ancien président de la République, dont nous connaissons la position, a des bateaux à Kigoma. Si Uvira est pris, c'est sur ces bateaux-là qu'ils vont acheminer tout l'arsenal rwandais AFC ou M23 à Kalemi et de Kalemi à Lubumbashi, de Lubumbashi à Kalemi, à Kolwezi, et le reste va suivre.
Voilà. Et au-delà, au-delà de cette situation sécuritaire, il y a aussi la situation humanitaire. Hein. Il y a des cités qui sont vidées, n'est-ce pas, de leurs habitants. Et les habitants qui cherchent où s'abriter et par rapport à ces affrontements. Quelle est la situation humanitaire actuellement dans cette partie du pays, honorable Vitakura?
La situation humanitaire est encore plus grave parce qu'il y a eu des bombardements venant de Bugarama au Rwanda, qui ont occasionné beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Cette zone de la République, il faut la comparer à Gaza, face à Israël. Parce que quand vous suivez les informations, vous êtes journaliste, Israël stoppe même l'aide humanitaire pour le Gaza en Palestine. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant à Uvira. Les populations de Luvungi ont fui vers Ndolera, vers Kiringye, d'autres vers Lemera. Ceux de Luberizi fuient à Sangue, ceux de Sangue vont fuir vers Kiliba et vers Uvira Centre. Mais en fin de compte, quelle sera la destination? Est-ce que le Burundi, qui a moins de 9 millions d'habitants, va accueillir 10 millions d'habitants? Impossible.
Merci. Merci.
Alors, ici, il faut demander à Kinshasa à quoi on s'attend. Est-ce que Kinshasa a encore le souci de protéger cette partie de la République? Où est le ministre de la Défense? Où est le chef d'état-major général? Où est la maison militaire? Le Rwanda se bat maintenant avec les drones. Donc la RDC n'est pas capable d'avoir aussi des drones ou d'avoir des anti-drones, anti-missiles. La population d'Uvira se sent abandonnée. Ça, je vous l'ai dit.
Merci. Merci, bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Capi. Vous suivez en ce moment votre magazine Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de l'intensification de combats depuis une semaine dans la plaine de la Ruzizi au sud Kivu entre les FRDC appuyés par les Wazalendo et l'AFC-M23 appuyé par l'armée rwandaise dans un contexte d'entérinement de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Et comme vous l'avez deviné, nous en parlons avec l'honorable Justin Mitakura. Il est ministre honoraire, il est député national, élu d'Uvira au sud Kivu. Il est également président du parti politique Alliance pour la République et la Conscience nationale, ARCN en sigle, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Si vous voulez réagir, vous pouvez appeler au 089 55 98 337, 089 55 98 337.
Parole aux auditeurs. Par internet, pa@radiookapi.net.
Voilà, nous allons maintenant ouvrir notre standard pour écouter les auditeurs qui sont déjà en ligne. Et là, nous commençons avec Lubumbashi dans les Haut-Katanga où Jérémy Mwamba nous attend. Jérémy Mwamba, bonjour. Jérémy Mwamba, depuis Lubumbashi, est-ce que vous êtes là? Jérémy Mwamba, vous n'avez pas fermé votre micro? Allô, Jérémy Mwamba? Voilà. Voilà, apparemment il n'est pas encore là et on quitte le Haut-Katanga pour le sud Kivu où Emina Mwanda nous attend à Bukavu. Emina Mwanda, bonjour. Emina Mwanda, apparemment vous avez fermé votre micro, hein. Emina Mwanda depuis Bukavu, voilà, il n'est pas encore, je ne sais pas s'il nous entend. Et nous restons dans la ville de Bukavu où nous attend aussi Amos Bissimwa. Non, lui il est plutôt à Kisangani. Amos Bissimwa, vous intervenez depuis la ville de Kisangani dans la Tchopo. Bonjour Amos Bissimwa.
Je suis plutôt à Bukavu.
À Bukavu, voilà. Sur ma note ici, on a écrit Kisangani. Voilà, allez-y Amos Bissimwa.
Bonjour cher Guy Maté.
Bonjour
Amos. Bonjour à l'invité, l'honorable Justin Vitakwira. Bonjour à la population qui suit la radio Capi. je dis pole à la population du Sud Kivu en particulier et celle de l'Est par rapport à la situation que nous traversons actuellement. Nous sommes devenus des orphelins, abandonnant notre triste sort. Par rapport au sujet, un accord signé et puis des affrontements au lendemain sur terrain et qui sont des victimes. Moi je pense, et on l'a dit, je pense que cet accord a encore été très mal négocié et les conséquences sont déjà là. Ce qui est vrai, Guy Maté, par rapport à la situation que nous traversons, toute démarche tendant à amener la paix. Malheureusement, on constate avec regret que du côté de notre gouvernement, on semble ne pas comprendre dans quoi on est. Et on serait distrait. Apparemment, on joue la carte de la balkanisation. Sans vouloir nous le dire.
Qui joue la carte de la balkanisation, Amos Missimoi?
J'ai dit notre gouvernement jouerait la carte de la balkanisation.
Ok. Quel serait l'intérêt du gouvernement de pouvoir, jouer cette carte-là de balkanisation?
En politique, tous les coups sont permis au nom de ses intérêts égoïstes. Ça se dit, et au nom du pouvoir pour le pouvoir. On ne veut pas rentrer dans ce qui a été déjà dit. Mais je voudrais dire quoi? Comment comprendre que juste après la signature du fameux accord, il y a affrontement sur toutes les lignes au sud Kivu? Que ce soit en Zibira, que ce soit à Mwenga, que ce soit dans la plaine, que ce soit à Mudaka. Et partout on enregistre des morts. On vit aussi de nos dirigeants. Moi j'ai eu à dire, on n'a pas compris comment, tout le monde sait que les États-Unis c'est une sommité politique, mais aussi c'est la puissance mondiale. Si du moins les États-Unis voudraient nous aider et serait sincère, on devait d'abord vider la question du dialogue interne, parce que la situation est liée aux problèmes internes, dérives dictatoriales dans lesquelles le pays est plongé. Justice tribalisée, politisée et manipulée, détournement, panoplie de groupes armés. Et puis on devait finaliser Doha. Et puis on se dit, on va maintenant aux États-Unis pour sceller et crier la paix. Maintenant on ne comprend pas comment on a commencé par la tête et puis finir par les pieds. Ça ne se comprend pas. C'est comme tu dirais. Du côté du gouvernement congolais, les gens qui négocient ne comprennent pas dans quoi ils sont réellement. Si j'essaie d'analyser ce qui est dans cet accord, je vais citer Guy Maté, la question des offres de l'air. Est-ce qu'un gouvernement responsable peut accepter ce qu'il a accepté par rapport à la question des offres de l'air? Ça ne se comprend pas. Le chef de l'État a dit qu'il ne signera pas avant qu'il y ait retrait des troupes. Pourquoi alors il a signé? On nous aurait déjà sacrifié. Moi, je pense que ce sont nos notables de l'Est, et je m'adresse à Bitakwira et tous ses collègues, ils nous ont déjà trahis au nom de leurs intérêts de gauche, parce qu'ils devaient dire, soit nous quittons les institutions, tant que la paix ne sera pas chez nous. Parce qu'on ne sait plus qui ils représentent. Ils représentent qui. Et aujourd'hui, au niveau du Congrès, ils seront en train d'acclamer comme des robots au moment où rien ne va au pays.
Ok, merci.
Vraiment, nous sommes tellement déçus.
On a compris.
Et nous demandons qu'on ait pitié du peuple qui souffre. On a tant souffert. Nous voulons la paix et rien que la paix. Malheureusement, nous constatons que nous sommes abandonnés. Même que cet accord n'a jamais été présenté au niveau de l'Assemblée nationale. Au moment où l'article 213-214 le stipule, est-ce que nous avons encore une Assemblée ou un Sénat?
À mon souci, moi, on a compris l'essentiel de votre message. Je rappelle que vous interveniez depuis la ville de Bukavu, sud Kivu. On reste à Bukavu avec Emina Mwanda qui nous attend. Emina Mwanda, j'espère que c'est toi qui es là. Emina Mwanda, est-ce que vous êtes là?
Allô, monsieur Guy Maté, je suis là.
Allez-y, Emina Mwanda.
Bonjour à tout le monde, bon début de la semaine à vous, Guy Maté, et surtout à cette vidéo qui permet cette émission. Je sais très bien que nous sommes à Bukavu. Les dire comme ça à la radio, peut-être certaines personnes peuvent croire que c'est des mensonges. Je sais très bien que l'accord de paix n'aura pas de sens que s'il est suivi des actes visibles sur le terrain. Arrêt de l'hostilité, protection des civils, retrait des troupes étrangères, justice pour les victimes. Sinon, il restera un texte diplomatique déconnecté des souffrances réelles que la population de ces 50 du pays exprime. Parce qu'il y a une question principale après la signature de cet accord. Que vaut un accord de paix si la population continue à fuir et les combats se poursuivent? Mais c'est ce que nous sommes en train de subir ici à Bukavu ne peut pas être pris dans la légère comme certaines personnes commencent à le prétendre. Je viens de suivre religieusement moi, ce qui se trouve dans la même ville ici. La façon dont on a dit de nous exprimer, c'est du matin, que les autorités ne puissent pas nous tenir, parce que c'est comme quelqu'un qui est en train de pleurer, quelqu'un qui pleure, on ne peut pas regarder sur son visage. Nous souffrons énormément ici à Bukavu. Ce sont les vies qui sont en train d'être perdues. Et nous ne savons pas quand est-ce que ces autorités prendront fin. Alors, nous avions suivi les sorties médiatiques de certaines personnes, disant que non, si petite Ophéa pourrait être mise par le mouvement HR23, c'est tout le Congo qui sera accompli. Ce qui peut être une réalité selon une satire. Parce que la manière dont nous sommes en train de lire les choses et de vivre dans les vies actuellement, nous sommes en train de croire que peut-être il y a un signe qui est en train d'être pris. Au-delà de signer cet accord-là, il y a encore d'autres engagements que le gouvernement congolais est en train de faire avec Kigali. Parce que normalement, cet accord de Washington ne pourrait pas être signé avant que les droits de l'homme ne soient terminés. Parce que les partis belligérants, les partis concernés, s'engagent dans le processus des droits. Mais on a commencé par quelque chose qui est dehors de la réalité. On veut maintenant peut-être tromper la violence des dégâts. C'est le M23 qui tourne dans le signe des dégâts. Et ce sont ces gens-là qu'on doit négocier avec. Pas le Rwanda qui est comme un supplétiste, M. Guimassi. Nous payons au gouvernement de prendre la situation au sérieux. Sinon, la population, tout le monde qui est en train de s'écouler actuellement sera sur les épaules et sur la tête des autorités congolaises actuellement.
Merci.
Parce que les massacres que les populations de Sud Kivu et du Nord Kivu sont en train de connaître actuellement dépassent les limites du tolérable. Alors, de cette occasion, j'interpelle le gouvernement parce que vous aviez même vu quand nous avions débattu cette question de cet accord qu'il y avait même des violations des constitutions de certaines dispositions légales. Parce que comment on peut d'abord commencer à signer des accords sans protocole se mettre à l'Assemblée nationale? Elle est prête en train d'être vécue. Et c'est la population qui tue la focale.
Merci Amina Mwanda, on a compris. On quitte Bukavu pour Lubumbashi, une fois de plus. Et j'espère que Jérémy Mwamba est là. Jérémy Mwamba, vous êtes là? Voilà, Jérémy Mwamba n'est pas là. On reste dans la même ville de Lubumbashi où nous attend Maître Patrick Odia. Maître Patrick Odia, bonjour. Maître Patrick Odia, est-ce que vous êtes là?
Allô? Oui, bonjour Guy Maté, bonjour l'invité et à tous les auditeurs de la radio.
Voilà, sur ma note, on dit que vous intervenez depuis la ville de Kinshasa. Vous êtes en Kinshasa?
Certainement, je suis à Kinshasa, Guy Maté.
Ah, okay.
Merci de m'associer à tes niveaux du débat également.
Allez-y, Maître Patrick Odia.
Cette question, lorsque nous en parlons, j'aime toujours la radio Capi parce qu'on met cette question régulièrement pour qu'on débatte et qu'on trouve des solutions, on propose. Malheureusement, les gouvernants ne nous suivent presque pas. Guy Maté, la paix ne se décrète pas, elle s'est construite. Cela exige, je vais dire, une action cohérente sur trois fronts. Le front politique, le front économique et le front juridique ou judiciaire également. Et sur le front politique, il faut reconnaître qu'il y a une volonté diplomatique affichée. Mais lorsque vous essayez de comparer l'écart entre les engagements et la réalité sur le terrain, vous allez voir que ça reste un signal criant d'un manque de coordination, d'une part avec les groupes armés locaux et leurs parrains régionaux et internationaux également. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses également, la tension au niveau du Sud Kivu, elle est aussi due à la méfiance mutuelle Kimaté, les influences étrangères également, sans oublier la faiblesse étatique. Voilà sur le plan politique les fonds sur lesquels on devait également discuter. Mais sur le plan juridique ou judiciaire, il faut reconnaître qu'il y a eu violation continue de la souveraineté de la RDC et qui continue également des crimes, les crimes continuent de se commettre sans être punis. Même les crimes dits entre guillemets les passés également n'ont jamais été punis sévèrement au regard des tests nationaux mais aussi internationaux également. Les impunités ou les impunis, je vais dire, bénéficient souvent d'une immunité et d'une protection spéciale par l'État. Au lieu que les mécanismes judiciaires soient impliqués au niveau national, mais aussi au niveau international, pour que les responsabilités judiciaires pénales soient également établies, malheureusement, on tarde également. Il faut également reconnaître que l'accord de paix n'a de sens que s'il s'inscrit dans un cadre légal clair, notamment les droits internationaux humanitaires, les droits pénaux internationaux et même les droits nationaux. Et lorsque vous prenez l'angle des droits nationaux, Guy Maté, vous allez voir que l'accord qui a été signé n'a pas un ancrage populaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a eu des étapes qui ont été sautées, notamment les chefs de l'État qui devaient soumettre cet accord au niveau du Parlement pour qu'on puisse critiquer et aborder, améliorer. Cela n'a pas été fait. Mais quand on demande au président de l'Assemblée nationale, on lui demande, il demande oui, l'accord sera entériné. Et je me demande, lorsque la bouche autorisée de l'Assemblée provinciale, l'Assemblée nationale, la deuxième personnalité du pays, confond de manière hasardeuse et aussi dangereuse l'entériment d'un accord, alors que les articles de la Constitution 213 et 214 obligent que les chefs de l'État préalablement déposent cet accord au niveau de l'Assemblée. Donc, vous voyez qu'il y a ces problèmes juridiques et judiciaires également, mais sur le plan économique également, je vais citer par là, il faut les reconnaître. Beaucoup de politologues vous diront, beaucoup d'analystes vous diront également qu'il y a les enjeux économiques. Et en 2021, le chef de l'État Tshisekedi et le président ougandais ont mis des routes également au niveau de Bunagana vers l'Ouganda pour qu'il y ait le commerce transfrontalier et qu'on permette le développement de ces territoires ou de cette région également. Directement, il y a eu M23 directement. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux économiques. Il faut le reconnaître. Et Kagame ne veut pas qu'il y ait des enjeux, qu'on détourne les enjeux économiques. D'où moi je pense au-delà de tout ce qui a été fait, il y a lieu de pouvoir rappeler la responsabilité du Conseil de sécurité, notamment par le truchement de la résolution 2773, mais aussi également des réformes structurelles doivent être mises en exergue également pour qu'on permette la puissance militaire de nos militaires également puisse monter pour faire front à tout ce qui est menace également. Vous ne pouvez pas que le Burundi, qui n'a pas été menacé, directement il y a eu toute une mobilisation populaire, toute une mobilisation militaire, même politique. Mais contrairement à nous, le peuple reste divisé. Nous sommes encore dans les divisions de tel musicien, tel tout ça, tout ça. Bref, j'invite le peuple congolais à être conscient, à apporter son soutien à l'armée, si bien qu'il y a eu 30% des leaders, mais qu'on apporte également des ressources pour permettre à ce que les militaires puissent, d'une part, affronter et défendre l'intégrité du territoire, mais d'autre part également qu'une politique étrangère diplomatique soit réellement installée. Mais d'autre part également, que le Conseil de sécurité, qui a une mission internationale, la sécurité internationale, puisse faire également le travail qui est le leur. Brièvement, le travail ou les responsabilités sont à partager. Voilà pourquoi nous avons dit, Guimaté, vous rappelez-vous, avant-hier, nous avons dit que cet accord, nous donnons que 40 ou 30% du respect. Et vous ne pouvez que suivre le président Kagame hier ou avant-hier, qui, après avoir signé l'accord, mais continue de parler avec toute une arrogance. Et ici, on a organisé des cortèges pour accueillir le chef de l'État, comme si on avait déjà entériné l'accord, je vais dire, comme si on avait déjà imposé la paix à l'Est. Il faut vraiment qu'on soit sérieux, qu'on soit populaire, qu'on soit tout admis pour que la paix revienne et que les responsabilités populaires, étatiques, internationales et régionales soient également partagées et que chacun fasse son travail également.
Merci, Maître Patrick Odia. Vous intervenez depuis la ville de Kinshasa. Et là, on quitte Kinshasa pour Bandounouville où Pati Maïmba nous attend. Pati Maïmba, bonjour.
Bonjour, cher Pierre. Bonjour à tous les auditeurs de la paix. Ok, cher Pierre Maté. Vous savez quoi?
Nous avons du mal à vous saisir. Hein. Il y a beaucoup de bruit autour de vous. Allez-y maintenant.
Non.
Allez-y.
Alors, maintenant, vous êtes
bien? Oui, ça va maintenant. Allez-y.
D'accord. Chers qui me disaient, quand quelqu'un nous a noyé dans l'eau, tout ce qu'il va flotter sur l'eau, il pensait que c'était un sauvetage. Maintenant, nos dirigeants, ils sont allés saisir là où il ne fallait pas saisir. D'abord, la question de curiosité qu'on peut faire poser. Ils sont allés entériner ces accords. Ils ont eu cet aval là où? Parce que vous vous souviendrez avec moi que tous ceux qui connaissent la loi, ils nous diront ici que non, il faut d'abord que cet accord passe à l'Assemblée nationale, qu'il y ait l'aval de la population. Donc, nous qui sommes représentés par nos députés, mais sont qui vont nous donner le travail. Ça n'a pas été le cas.
Ati Maïmba, votre ligne s'est détériorée, du coup on a du mal à comprendre ce que vous dites. Essayez de bouger un peu, essayez de faire un petit mouvement. Ati Maïmba, voilà, apparemment il est parti, nous revenons à notre invité honorable Justin Bitakwira. Nous rappelons que vous êtes ministre honoraire, vous êtes député national, élu d'Ouvira au sud Kivu, vous êtes également président du parti politique Alliance pour la République et la Conscience Nationale, ARCN en sigle, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Réagissez à toutes les réflexions des auditeurs qui venaient d'intervenir ici.
Merci Guy Mathieu. Dernièrement encore dans une de nos émissions, Dialogue entre les Congolais, je vous ai dit que je suis un simple figurant à l'Union Sacrée et toutes mes positions n'engagent pas l'Union Sacrée parce que l'Union Sacrée a des responsables attitrés.
Vous parlez en tant que parlementaire.
J'ai suivi moi, 6 mois à Bukavu. Emina Mwanda à Bukavu, Jérémy Mwamba à Kinshasa, et Maître Patrick Odia.
Et Pati Maïmba également à Banouville.
Ou à Banouville, oui, je viens de l'écouter, mais même si le réseau s'est dégradé. Je voudrais dire ceci, que ce qui se passe à l'est du pays, et voir la position de notre gouvernement pour faire face à la menace, c'est un déséquilibre général. On a l'impression qu'on est en face d'un pingouin. Le pingouin, c'est un petit animal dans le désert. Je l'ai toujours dit, qui on le pourchasse, fatigué, il enfouit les yeux dans le col et il dit, comme moi je ne les vois plus, c'est que eux aussi qui me poursuivent ne me voient pas. Et on vient les prendre avec toutes les facilités du monde. Sincèrement, je vais dire d'abord à Moshe Bitimwa, qui dit que nous sommes des figurants, nous devrions quitter les institutions, mais chacun va assumer sa responsabilité. Il y a plus de 2 ans, même plus, j'avais demandé au gouvernement congolais de fermer nos frontières avec le Rwanda. En ce moment-là, la rébellion était à Bunagana. Et je l'informe qu'il y a de cela 4 ans, le Burundi a fermé ses frontières avec le Rwanda, alors que le Burundi n'est pas en guerre avec le Rwanda. Est-ce que je veux dire que nous sommes des naïfs? Est-ce que je veux dire que nous n'avons pas les yeux pour lire les signes du temps? Est-ce que je veux dire que notre gouvernement n'a pas de boussole? Parce que l'avion ne vole pas sans boussole. À l'allure où vont les choses, et le gouvernement, et nous-mêmes, députés comme sénateurs, nous allons nous poser la question, où va le pays? Qui fait quoi? quelle est la responsabilité des uns et des autres.
Honorable Vitatura, lorsque vous parlez, on a tendance que vous semblez charger le gouvernement de Kinshasa, mais il y a aussi un facteur important et qui est souvent cité, évoqué, n'est-ce pas, par les experts, c'est cette méfiance qui existe entre les FRDC et les Wazalendo qui sont sur le terrain des opérations. Est-ce que ces facteurs-là ne peuvent pas aussi, n'est-ce pas, expliquer le fait que la rébellion est en train de gagner facilement du terrain?
Je ne pense pas que les petits soucis de un, deux ou trois individus, maîtrisables d'ailleurs, peuvent changer la donne pour faire face à l'ennemi. Je ne pense pas. Et moi, personnellement, en ce qui concerne les Wazalendo, pour ceux qui me connaissent, je suis un des architectes en ce qui concerne le sud du Sud Kivu pour rassembler ces Wazalendo. Parce qu'ils étaient tous dispersés dans les montagnes, mais j'ai fait partie de ceux qui les ont amenés jusque dans les grands centres. Et le seul arbitre, c'est le gouvernement. Donc le gouvernement devrait savoir qui sont les bons grains et les mauvais grains. J'échange régulièrement avec les autorités militaires se trouvant au Virap, Kinshasa doit se considérer comme le parent de la maison. Et la maison, c'est la République démocratique du Congo. Ouvira peut être comparé au petit doigt de la main. Kinshasa peut-être peut le comparer au pouce. À l'interne, tout est possible à résoudre. Donc j'écarte cette position de dire que le conflit interne entre l'armée et les Wazalendo favorise l'ennemi. Non. Je l'ai encore répété hier. Nous avons un seul ennemi commun. Les Wazalendo doivent le savoir et les FARDC doivent le savoir. Alors, s'agissant de Emina Mwanda, il dit que nous sommes en train de payer le prix. Il peut avoir raison. Votre émission ici doit plutôt nous aider à interpeller le premier citoyen du pays qui a même tous les mécanismes. Il a le ministère de la Défense. Le ministère de la Défense a l'état-major général. Il y a la maison militaire. Il y a la zone de défense. Il y a la région militaire. Que ce soit à Shabunda. Shabunda est menacé. Kabare est menacé. Quand je parle de Kabare, je vois Katana. Kalehe est menacé. Shabunda est menacé. Maintenant, c'est la plaine de la République qui est menacée. C'est la ville d'Uvira qui est menacée. Où est la responsabilité du gouvernement? Où est le ministère de la Défense? Où est l'état-major général? Où est la maison militaire? C'est ça la vraie question.
Merci.
Le Burundi est venu à notre rescousse. Il est plus proche de nous. Est-ce qu'il faut commencer à imaginer s'il faut lui donner les commandements pour faire face à l'ennemi?
Merci, honorable. On a compris. Donc, on va une fois de plus redonner la parole à d'autres intervenants qui sont déjà en ligne. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Capi. Vous suivez en ce moment votre magazine Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de l'intensification de combat depuis une semaine dans la plaine de la Ruzizi au sud Kivu entre la FRDC appuyée par le Wazalendo et la SM-23 appuyée par l'armée rwandaise dans un contexte d'entérinement de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Si vous voulez réagir, vous pouvez appeler au 089 55 98 337, 085 55 98 337.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Voilà, nous avons encore trois autres intervenants en ligne. Nous donnons à chacun une minute parce qu'on est on tend vers la fin de l'émission. Là, nous sommes dans l'Itourie où nous attend Sylvain Aguenorf. Sylvain, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole, Sylvain.
Bien, je salue très rapidement l'invité, Laurent Bitakwira. Moi, je pense qu'au regard des enjeux de l'exploitation des ressources naturelles de notre pays, M. Bitakwira et tous les autres camarades qui me suivent savent bien que les acteurs impliqués dans cette exploitation illégale entourés de la formation des fonds pour en faciliter l'exploitation sont les mêmes avec lesquels on se retrouve dans des discussions. Je cite les États-Unis. Les États-Unis, tous ces puissances occidentales, à travers leurs multinationales, financent les groupes armés. Et je me pose la question, pourquoi on ferait confiance à ces gens? Moi, je ne vais pas aller très loin. Il est nécessaire que nous puissions réorganiser notre armée, notre système de défense et de surveillance du territoire national, à l'interne comme à l'externe. Moi, je ne crois pas qu'un accord politique donnerait la solution au problème de l'Est. Et ici, la classe politique que nous sommes, nous devons nous rendre compte que nous avons, en premier chef, la responsabilité, les articles 90, 91 de la Constitution, pour protéger l'espace de notre pays. Et donc, nous allons continuer à faire confiance à l'entériment d'un accord dans lequel vous voyez ouvertement et notre président, et le président incriminé, c'est-à-dire le président rwandais Paul Kagame, il ne s'allie même pas. C'est le garde même pas. Qu'est-ce que nous attendons?
Merci, merci Sylvain. On a compris, on quitte la RDC pour l'Autriche ou à Vienne. Nous attend Franck. Franck, bonjour. Allô Franck, voilà. Apparemment il n'est pas encore là.
Si, je suis là.
Franck, bonjour.
Bonjour Monsieur Guy, bonjour à votre studio.
Voilà, vous avez la parole. Une minute. Hein.
Merci beaucoup. Je crois que nous sommes tous là en face de nos responsabilités, en face de réalités dans lesquelles nous nous retrouvons. Mais de mon côté, je crois qu'il y a seulement plus de questions à nous poser, surtout que nous avons comme invité un honorable qui est de l'Union Sacrée et qui est aussi de Secoué qui est occupé. On est vraiment en train de se demander si le danger en face desquels nous nous trouvons est convenablement pris au sérieux par ceux qui nous gouvernent. Nous sommes en train de voir ce qui se passe. Je crains que nous puissions encore, si on ne fait pas attention, que la prophétie d'Amos puisse se concrétiser. Parce qu'on ne sait pas comprendre que nous puissions faire foi aux accords qui sont clairement sabotés par les autres. Et au lieu de nous réorganiser de l'intérieur, organiser notre système de défense, notre système de sécurité, nous croyons aux accords comme si ce sont les autres qui viendront tout faire à notre place. Et nous croisons les bras, nous croyons au triomphalisme avec des choses qui ne tiennent pas debout alors que nous sommes en train de voir une bonne partie de notre pays en train de partir.
Oui. Franck, vous avez fermé votre micro, hein, apparemment.
Oui, j'ai dit à l'honorable Bitakwira qui est de l'Union Sacrée, il peut nous dire pourquoi maintenant rester au sein des regroupements qui ne vous considèrent pas, qui ne prend pas vos avis en considération. Merci. Je dois m'arrêter là parce qu'on n'a plus assez de temps.
Merci. On prend le dernier auditeur qui est à Kinshasa, c'est Christian Kassessé. Christian Kassessé, on vous écoute. Christian Kassessé, est-ce que vous nous entendez? Christian Kassessé, vous avez fermé votre micro, apparemment. Christian Kassessé, voilà. Apparemment, il n'est pas là. On donne la parole honorable Justin Mitakwira, ministre honoraire, député national élu d'Ouvira au Sud-Kivu, également président du parti politique Alliance pour la République et la Conscience nationale, ARCN, en sigle, parti membre de l'Union Sacrée. On rappelle ici que vous n'engagez pas l'Union Sacrée, mais vous parlez en tant qu'élu du peuple. Est-ce que vous pouvez réagir à toutes les réflexions de ces derniers auditeurs?
Oui. Je ne vais pas oublier Maître Patrick, hein. Il a parlé de Kinshasa, sur que la paix ne se décrète pas, la paix se construit. Je lui donne parfaitement raison. Et c'est notre responsabilité de dessiner l'avenir de notre pays. Et les dirigeants, ceux qui nous gouvernent, doivent répondre aux aspirations du peuple. S'ils ne répondent pas aux aspirations du peuple, ils auront failli à leur mission. Quant à Patrick Mahimba, je suis du lac Tanganyika, il a dit que quand quelqu'un est noyé, tout ce qu'il voit sur l'eau, c'est un sauvetage. S'agissant de Sylvain Anituri, il a parfaitement raison. Parce que notre malheur, ce sont les ressources naturelles. Guy Maté, je vais vous donner un exemple d'un pays comme l'Algérie. L'armée de l'Algérie, qui n'a que 40 millions d'habitants, l'Algérie a une armée de 5 300 000 hommes. Nous avons approximativement 120 millions. Nous n'avons même pas 200 000 hommes dans l'armée. Et une armée qui a été phagocytée par le brassage, mixage, où on ne sait plus qui fait quoi, qui vient d'où. Parce que toutes les armées du monde, quand vous n'êtes pas de la nationalité d'origine de ce pays, vous ne pouvez pas faire partie de l'armée.
Un mot en guise de conclusion, honorable, nous sommes à la fin de l'émission.
Oui, je voulais dire à Franck, en Autriche, que nos responsabilités, c'est vrai, sont engagées. Il parle de la prophétie d'Amos. Lui serait un pasteur. Il nous aurait dit que dit la prophétie.
Merci. Merci, nous sommes à la fin de l'émission. Nous disons merci à notre invité qui intervenait en ligne, Justin Mitakwira, ministre honoraire et député national élu d'Ouvira Sud-Kivu. Il est également président du parti politique ASN, membre de l'Union Sacrée de la Nation. Merci aussi à tous ceux qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Des Vita qui est à la technique, Jonathan Chimanga qui a assuré, n'est-ce pas, les lives de cette émission, et Gaz Saint-Wezolo en a assuré la réalisation et la coordination sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. À la présentation, Guy Maté, merci une fois de plus et bon site programme sur Radio Capi.